France Culture.
Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture, préparé avec Mélanie Chalandon, Théa Corlaire, Gwendoline Troiano, Barthélémy Gaillard et Joséphine Reinhardt, réalisé par Cassandre Puel et la technique ce matin, c'est Ludovic Auger. C'est le deuxième volet de notre série consacrée aux politiques de légalisation du cannabis dans le monde après les États-Unis, où légalisation sonne avec libéralisation, l'Uruguay où l'État, à l'inverse, garde le contrôle sous l'impulsion en 2013 du président José Mujica, ici traduit par la télévision québécoise, car le Québec s'est en partie inspiré de l'Uruguay.
Comme la répression n'a pas donné de résultats, nous devons avoir une politique beaucoup plus intelligente. Il ne s'agit pas d'encourager la consommation, mais d'encadrer une consommation légale et de savoir que lorsqu'elle est exagérée, il s'agit de quelqu'un qui a besoin d'aide.
Il y a maintenant beaucoup de gens qui n'achètent plus sur le marché noir. Ils cultivent chez eux ou au sein d'un club cannabique. Donc, une partie de l'argent qui allait avant au narcotrafic revient désormais à la société, ce qui crée de nouveaux emplois.
Dans les faits, nous vendons beaucoup de médicaments qui sont plus dangereux que le cannabis. En tant que pharmacienne, nous ne devons pas porter de jugement sur ce que nous vendons.
C'est un héritage laissé par l'ancien président uruguayen José Mujica, disparu il y a un mois. Le 10 décembre 2013, l'Uruguay devenait le premier pays du monde à légaliser la production, la distribution et la consommation récréative, comme on dit, de cannabis, à l'opposé du modèle libéral états-unien dont nous parlions hier, où le développement du cannabisness a profité à de nombreux acteurs de cette industrie nouvelle. En Uruguay, c'est l'État qui garde le contrôle. Producteurs agréés, vendent en pharmacie et Cannabis Social Club. Ce sont les piliers d'une politique de légalisation qui affiche également son souci de préserver la santé des consommateurs. Quel bilan peut-on en faire plus de 10 ans plus tard? Comment les autorités encadrent la filière? Quel est le rôle et comment fonctionnent les Cannabis Social Club? Comment expliquer la persistance d'un marché illicite? Toutes ces questions que nous posons à nos invités pour qui il est très tôt ou très tard, je ne sais pas, il est 3h03 à Mexico, où vous êtes, Luis Rivera Vélez. Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue à vous, merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur postdoctoral au Centre d'études mexicaines et centra-américaines, le CEMCA, qui est donc à Mexico. Bonjour Déborah Halimi.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes experte indépendante auprès des Nations Unies, fondatrice de l'initiative Dalet Research et coordinatrice scientifique du programme INSERM EHESS, Drogue, Sciences Sociales et Société. Merci à tous les deux d'être avec nous pour parler de ce pays, l'Uruguay, qui donc a été le pionnier de la légalisation du cannabis dans le monde. Et avant de faire le bilan de plus de 10 années de légalisation dans ce pays, il faut raconter d'abord, Luis Rivera Vélez, comment l'État a pris cette décision, de quelle réflexion elle en est l'issue, et ça ne date pas de 2013. 40 ans avant qu'un président de gauche ne prenne cette décision, la junte militaire avait dépénalisé en 1974 la possession de cannabis. Pourquoi elle? Pourquoi à ce moment-là et avec quels arguments?
Alors, en 1974, il faut quand même faire un peu, être un peu plus nuancé par rapport à cette dépénalisation. En fait, les conventions internationales des drogues ne donnent pas d'injonction sur la pénalisation de la consommation en soi. Mmh. Elles disent qu'il faut interdire le trafic et la production, mais pas nécessairement les consommateurs, dans une logique de considérer les consommateurs plutôt comme des malades, il faut le dire à ces moments-là, comme des personnes vulnérables, en fait, qui sont des victimes de la drogue. Et du coup, à ces moments-là, c'est que la traduction que l'Uruguay fait, et notamment, du coup, cette junte militaire, fait de la politique des drogues internationales, c'est de ne pas condamner les consommateurs, mais quand même, elle continue à les traiter d'une certaine façon, à les pathologiser. Et continue quand même suite à la fin de la dictature, par exemple, on va voir que la police va continuer à criminaliser, pas du coup les consommateurs, mais les personnes qui possèdent du cannabis. Et il y aura tout au long des années 80, 90 et même 2000, énormément d'interpellations en fait des consommateurs de drogue. Et on voit que par exemple en 2010, on a un chiffre que environ 40% de toutes les infractions sur les drogues sont sur moins de 10 grammes de cannabis. On voit qu'il y a quand même une criminalisation des consommateurs de cannabis.
Et des cultivateurs, nous disiez-vous, qui disent à cette époque-là, enfin pendant ces années-là, que le cannabis qui est consommé en Uruguay, quand il l'est, il vient du Paraguay, il est de mauvaise qualité, c'est de l'herbe pressée mélangée à des produits parfois toxiques. Donc il y a des cultivateurs qui disent que eux voudraient pouvoir cultiver leur propre cannabis sur de grandes superficies ou pas pour ceux qui, malgré l'interdiction de le faire, cultivent.
Non, au tout début, en fait, il s'agit plutôt d'une consommation qui est destinée à une consommation personnelle, d'une production qui est destinée à une consommation personnelle. C'est-à-dire que on va avoir, des consommateurs de cannabis, donc ou des personnes qui s'élient avec la plante, qui consomment régulièrement, qui aiment les effets de la plante, qui vont revendiquer en fait le besoin de consommer une substance qui ne soit pas dangereuse pour eux. Et en fait, c'est de là que ce que vous disiez par rapport au commerce, de comment fonctionnait le commerce de cannabis à l'époque, est important. Parce qu'en fait, le commerce de cannabis illégal venait majoritairement du Paraguay, qui est un des pays producteurs de la région, et venait aussi en fait taché de substances. Beaucoup de consommateurs de l'époque en témoignent d'un cannabis qui est qui a des traces d'urine, qui a des traces de matière fécale, et en fait du coup c'est un cannabis qui n'est pas propice à la consommation humaine.
Oui, ça
et du coup ils revendiquent cette consommation. Ouais. Du coup ils revendiquent un peu une consommation, une substance qui soit un peu plus saine. Et c'est de là qui vient en fait les premières mobilisations. Et ce qui est assez intéressant, c'est que beaucoup de personnes qui sont à l'origine des mobilisations, c'est aussi des personnes qui ont été incriminées par la possession de plants chez eux. C'est-à-dire qu'ils avaient commencé à cultiver dans l'illégalité pour une consommation personnelle, mais ils avaient très peu de plantes. Et parce qu'un voisin venait les dénoncer, ou parce que la police trouvait des plants de cannabis, en fait ils commençaient des procédures judiciaires. Et c'est comme ça que beaucoup d'organisations de l'époque ont commencé à s'organiser, et que petit à petit elles commençaient à avoir un relais politique qui s'est traduit dans les lois postérieures.
Voilà, dans les lois postérieures, avant de replacer aussi ces débats-là dans un contexte plus international des Nations Unies avec Déborah Halimi, peut-être un mot encore, Luis Rivera-Vélez, sur le contexte politique en Uruguay quand sont votées les premières lois de légalisation du cannabis. Comment et pourquoi ces revendications dont vous nous parliez, des cultivateurs et de ces petits groupes d'amis qui se mobilisent pour réclamer le droit de consommer et de cultiver du cannabis de qualité en le cultivant soi-même, pourquoi ces revendications vont-elles particulièrement payer dans les années 2000 ? Le contexte politique est important à rappeler.
Oui, du coup, il faut pas nuancer le pouvoir de la gauche, de l'arrivée de la gauche en fait en Uruguay. Quand en 2005, les élections donne le pouvoir à Tabaré Vázquez, du coup le premier président de gauche du pays, il y a un peu un élan de mouvements sociaux qui pensent qu'il va y avoir un changement radical dans comment l'État peut se créer des relations avec la société. Et c'est à ce moment-là qu'on va avoir les premières lois par exemple, de pénalisation de l'avortement ou de reconnaissance des unions entre personnes de même sexe. C'est pas encore le mariage. Or, il y a une certaine aussi frustration de ce premier gouvernement, parce que ce premier gouvernement va se focaliser surtout sur des politiques économiques et de réduction de la pauvreté, qui sont très importantes à l'époque. Mais du coup, va aussi, par exemple, le Tabaré Vázquez va émettre un veto pour une loi de pénalisation de l'avortement qui a été votée en 2007. Donc cette frustration de ce premier gouvernement provoque encore une fois une mobilisation très forte des mouvements sociaux quand le deuxième gouvernement de gauche arrive au pouvoir en 2010, José Mujica, où il y a une agenda des droits qui s'est créé, qui s'est formé entre la loi de l'avortement, la loi du mariage pour tous et la loi du cannabis comme des lois de reconnaissance d'un certain type de droit et le droit au libre développement de la personnalité au final. C'est de la liberté, la reconnaissance de la liberté individuelle et un peu de l'égalité de ces personnes, même si elles sont des consommatrices de drogue.
Donc premier président de gauche, Tabaré Vasquez, qui pose son veto à la légalisation du cannabis comme à d'autres lois dites progressistes sur les valeurs, sur les mœurs en Uruguay, et donc c'est son successeur Pepe Mujica, élu en 2010, qui adoptera dans la foulée trois lois pour autoriser l'avortement, le mariage pour tous et le cannabis. Déborah Halimi, à l'époque, où en est le débat sur la légalisation, cette fois à l'échelle du continent latino-américain et plus largement du monde, disons en tout cas des Nations Unies?
Merci pour votre question. Donc le débat sur la légalisation reste au niveau international assez finalement proscrit et reste un débat au niveau national qui était en Uruguay, en Californie, dans différents États, mais toujours à bas bruit. Ce qui est assez remarquable en 2013, quand l'Uruguay décide de légaliser les usages de cannabis, c'est le contexte sans précédent de dissonance, de remise en question de l'interprétation dominante du contrôle international des drogues, qui est une interprétation essentiellement répressive de ce cadre normatif. Donc pour rappel, le régime de contrôle international des drogues repose historiquement sur une délimitation des usages, une délimitation qui est voulue légitime parce qu'elle est restreinte à des usages médicaux et scientifiques. Et finalement, toute forme d'usage qui sort de ces espaces d'autorisation sont considérés comme par défaut devant être réprimés et interdits. Et donc, de façon stricte, suivant les traductions politiques qui en ont été faites. Et du coup, ce cadre a longtemps prévalu sans véritable débat, mais au tournant des années 2010, donc il y a la Californie qui parle de légalisation, il y a des organisations de la société civile, notamment en Amérique latine, avec une commission informelle d'anciens présidents qui commence à briser le tabou dans des différents rapports de la guerre à la drogue. On a même un directeur de l'ONUDC, Costa, en 2008, qui prévient de façon assez inédite encore des conséquences inattendues, je cite, du modèle en place. Et tout cela en 2012 va prendre un nouveau tournant avec un appel officiel dissonant de trois chefs d'État, Calderón du Mexique, Santos de Colombie et Molina du Guatemala, qui vont appeler à la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies à l'ouverture d'un débat global, franc et sans préjugés. Donc comprendre qu'il faut envisager toutes les possibilités à une alternative à la guerre à la drogue, ou en tout cas à un contrôle répressif et sécuritaire. Et dans ce contexte, ce qui est assez intéressant, c'est que la légalisation n'est pas encore posée comme une solution unique, ni même explicitement promue, parce que bon, c'est pas une, elle est encore perçue comme une antinomie du contrôle en place. Et l'objectif des trois présidents reste de réouvrir l'espace des possibles. Et en conséquence, le calendrier onusien est bousculé. Une session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies est avancée de 3 ans. À 2016, a été initialement prévu en 2019.
On a oublié combien ce débat-là prenait de la place à l'époque aux Nations Unies. 2016, à ce moment-là, l'Uruguay a déjà tracé son propre chemin puisqu'il a décidé 3 ans plus tôt de légaliser le cannabis. Comment est perçue cette décision à ce moment-là, Déborah Halimi?
Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans la démarche impulsée d'abord par le président Mujica, le cadre de référence proposé n'est pas celui uniquement des conventions internationales sur les drogues, et Luis l'a rappelé un peu, c'est vraiment le socle des droits humains, le droit à la vie, le droit à vivre dans une société en paix et en bonne santé, qui prévaut. Donc, le curseur a été quelque peu déplacé, et elle va amener aussi, d'une certaine manière, la communauté internationale à déplacer son curseur et à s'accommoder, voire en tout cas à s'interroger sur la cohérence et l'efficacité du contrôle international des drogues. Mais vous l'aurez compris, la première réaction n'a pas été cela, ça a été un cheminement long. Les premières réactions ont été assez vives, mixtes, violentes même parfois. On peut délimiter 4 types d'attitudes. La première a été vraiment une panique normative et une peur de la sortie de l'Uruguay des conventions avec l'OICS, donc l'organe international de contrôle des stupéfiants, qui est le gardien des conventions internationales, qui a condamné très fermement cette initiative de Montevideo. qui a caractérisé, qui a vraiment stigmatisé même l'Uruguay pour sa décision, en le traitant de maillon faible du système international, de pirate même, et de s'empresser de visiter le pays en 2015 pour voir ce qu'il en était. Ensuite, on a eu des réactions d'instrumentalisation politique de cette décision dans le contexte que j'ai rappelé précédemment, d'un bloc de pays beaucoup plus conservateurs, comme la Russie, la Suède, le Pakistan, l'Égypte, qui ont vu dans cette légalisation aussi une manière de polariser le débat et de montrer que tout débat sur le traitement politique des drogues pouvait signifier sa fin, le chaos, l'opposé, la légalisation.
Vous parliez d'un troisième type de réponse en quelques mots.
Oui, et le reste des États étaient donc dans un attentisme plus ou moins critique pour voir ce qu'il en était, enfin condamnant non pas tant la légalisation en tant que telle, sinon la décision unilatérale dans un contexte multilatéral. Donc on attendait de voir, et à l'audace politique, le temps était pris comme principal allié.
Alors que l'Uruguay, lui, par la voix de son président José Mujica, répond qu'il n'a pas du tout l'ambition de s'ériger en modèle à suivre.
C'est une expérience et naturellement, comme pour toute expérience, il y a un risque et nous devons avoir l'intelligence de dire que si elle nous dépasse, nous enclencherons la marche arrière. Nous ne devons pas nous braquer. Je ne vais pas commencer à dire que la marijuana c'est bien ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de bonne addiction. Mais l'homme est la seule créature qui agit contre lui-même. Il sait que c'est mal de fumer, mais il continue à fumer. C'est pareil avec le cannabis. Je crois que nous pouvons contribuer à faire avancer l'humanité, faire une vraie contribution à l'humanité. Nous pouvons être un laboratoire mettant en œuvre des mesures pour aider à lutter contre le problème et utilisant des outils pour lutter contre l'addiction.
José Mujica, dit Pepe Mujica, mort le 13 mai dernier. Quand il prend cette décision forte, Luis Rivera Vélez, de légaliser le cannabis, qu'est-ce qu'il en attend? Comment est-ce qu'il présente cette légalisation aux électeurs d'abord, qui peut-être ne sont pas tous très partants pour ce genre de réforme, aux parlementaires aussi à l'époque?
Alors, la figure de José Mujica dans la légalisation du cannabis, elle est assez intéressante. Quand je lui posais la question de d'où était venue l'idée, il m'avait répondu très facilement que l'idée lui était venue aussi du modèle de régulation du travail du sexe, de la prostitution, que l'Uruguay avait érigé dans les années 30 pour réguler une pratique qui, si elle n'était pas souhaitable, elle existait dans la société et qu'il fallait avoir une approche pragmatique. Et en fait, je pense que c'est avec cette logique-là qu'il a dirigé son gouvernement pour qu'il y ait un débat parlementaire. Et il faut rappeler en fait que quand la proposition de loi du gouvernement arrive au Parlement, elle ne comporte qu'un seul article, un article unique qui dit le Parlement donne à l'exécutif le pouvoir de réguler le cannabis. Point. Or, là, il faut vraiment un peu positionner le débat à cette époque-là sur les objectifs. Pour Mujica, c'était un objectif sécuritaire. Mujica est confronté au début de sa présidence à une augmentation de la criminalité, notamment dans Montevideo, où vous commencez à avoir des assassinats dans la rue et vous commencez à avoir un peu une montée de la criminalité qui était associée à la drogue.
Un trafiquant de drogue assassiné en pleine rue, d'ailleurs, en 2011, ça ne s'était jamais vu. Et ça a contribué au débat à l'époque.
Voilà. Et du coup, quand le débat arrive au Parlement, là, il s'est complexifié un peu. Parce que les députés qui sont du coup du parti de Mujica, accompagnés de l'exécutif, donc un peu de l'équivalent de l'organe interministériel pour le gouvernement des drogues, pour le contrôle des drogues. En fait, ils vont vraiment créer, avoir une discussion et un dialogue avec tous les autres partis, avec les personnes à l'intérieur du pays aussi. Ils vont organiser des tables populaires pour parler de qu'est-ce que c'est la régulation du cannabis et vont aussi intégrer les demandes de la société civile. Et c'est pour ça que vous avez un système en Uruguay qui a trois voies d'accès et non pas une. C'est-à-dire que vous avez, du coup, une vente en pharmacie qui est un cannabis produit par des entreprises contrôlées par l'État et dont l'État contrôle absolument toute la chaîne de production jusqu'à la vente, y compris le prix. Vous avez la légalisation des clubs de cannabis, donc un peu de groupes de personnes, de voisins, d'amis, qui s'organisent en club pour produire ensemble un cannabis que chacun d'entre eux va consommer individuellement. Et vous avez la troisième voie d'accès qui est la culture à domicile où chaque personne cultive chez elle. Et en fait, cette idée des clubs et la culture à domicile, c'est une demande qui vient de la société civile. C'est la demande dont je vous racontais tout à l'heure, qui vient de ces mouvements de légalisation en fait, du cannabis qui surgissent dans les années 2000.
Donc, il y a...
Et du coup, c'est le travail législatif qui fait qui provoque cette complexification du modèle uruguayen.
Voilà, il y avait d'abord ce que proposait le président de l'Uruguay, puis ce qui a été installé et instauré suite à des débats parlementaires. Alors, il y a un système qu'on pourrait... Le temps passe très vite et vous êtes tous les deux à distance. C'est difficile de vraiment vous gérer un petit peu le temps de parole de chacun. Mais en gros, il y a à la fois la production qui est contrôlée par l'État, contrairement aux États-Unis dont on parlait hier. La légalisation n'a pas ouvert un nouveau marché à des entreprises privées. Au début, il y avait seulement deux entreprises autorisées à produire du cannabis. Aujourd'hui, je crois qu'elles sont quatre. En tout cas, ça reste très contrôlé par l'État. Et sur la distribution, cette fois, Déborah Halimi, il se trouve que vous avez visité l'année dernière des sites de production du cannabis et des pharmacies, surtout dans le cadre d'une étude pour le COPOLA, d'un programme de coopération entre l'Union européenne et l'Uruguay. À quoi ressemble la vente de cannabis dans les pharmacies? Sous quelle forme est-il vendu? À qui? Comment ça se passe?
Alors oui, donc déjà le système uruguayen de production et de distribution se veut très sécurisé. C'était quelque chose que les responsables qui nous ont accueillis ont voulu souligner. Très sécurisé, très tracé. Hein. On a visité les cultures, la vente en pharmacie également, le packaging des produits vendus. Il y en a cinq, il me semble, aujourd'hui. À l'époque, il y en avait quatre. Ils mettaient un cinquième sur le marché, je crois. On a toutes les données sanitaires, les risques aussi sur le packaging qui est blanc, qui est neutre. Et en pharmacie, vous ne pouvez pas acheter, n'importe qui ne peut pas acheter du cannabis. Vous devez être enregistré dans un registre national et qui comptabilise vos achats. Et cela se fait pareil avec des identifiants tout à fait traçables d'un point de vue individuel. Et ce qui était assez intéressant de remarquer, c'était aussi la volonté de suivre ce qu'il se passait et de ne pas laisser la politique, enfin les mesures et les usages partir comme ça seuls. Mais un vrai souci du gouvernement d'évaluer, de collecter des données sur les ventes, sur aussi la production. Donc une vraie volonté de sécuriser, d'encadrer, très palpable dès l'apport de la pharmacie.
Et est-ce que les pharmacies ont tout de suite accepté ce rôle-là, Luis Rivera Vélez? Aujourd'hui, je crois qu'elles sont 23 habilitées à vendre du cannabis, donc c'est pas non plus à tous les coins de rue en Uruguay. Comment se passe cette démarche-là?
Non, au contraire, c'est ça. C'est un des points compliqués de la mise en œuvre de la légalisation. C'est-à-dire que, en fait, quand ces parlementaires étaient en train de discuter la loi au Parlement, à la Chambre des députés, l'association des pharmacies uruguayennes s'est rapprochée d'eux et leur a dit oui, mettez-nous. Nous, on sait gérer des substances qui sont dangereuses. On les a déjà dans nos locaux, on sait tout gérer un peu sur l'anonymisation des gens et du coup dans le contrôle très sécuritaire pour que les personnes ne se sentent pas menacées de participer à ces registres-là. Et en fait, une fois que la loi a été votée et qu'il a fallu du coup parler aux propriétaires des pharmacies cette fois-ci pour qu'elles adhèrent au système, là, vous avez eu, à la base, c'était 17 pharmacies et petit à petit, ils ont réussi à en avoir d'autres qui rejoignent le système et d'autres qui s'en retirent en fait parce que en fait tout le problème des pharmacies d'une part vient de à la base c'était une logique aussi assez conservatrice des propriétaires des pharmacies qui ne voulaient pas accéder à ce système, mais aussi parce que le système bancaire international, de façon très compliquée et vis-à-vis d'une loi qui existe aux États-Unis, ne laisse pas rentrer dans le système international de circulation d'argent, l'argent qui vient du cannabis. Et du coup, les pharmacies qui vendent se retrouvent face à un problème de comment gérer leurs comptes, en fait, vis-à-vis de ces systèmes internationaux. Et l'Uruguay a trouvé un système où l'argent qui vient du cannabis ne rentre jamais dans le système international de régulation bancaire, mais ça fait que beaucoup de pharmacies sont aussi très réticentes à adhérer au système.
Alors en effet, puisque on ne paye pas en dollars En Uruguay, le pays est très dépendant du système international et il y a eu des risques de sanctions au départ, notamment par les États-Unis, par les banques qui trouvaient que cet argent venant de la drogue, c'était quand même compliqué à accepter. Enfin, je le résume à très très gros traits. Mais cet argent est censé quand même faire pour l'Uruguay office de rentrée fiscale très importante pour une politique sociale.
Le prix du cannabis uruguayen proposé sur le marché régulé sera autour de 1,20$, 1,40$ le gramme. Ce n'est pas l'objectif de l'État de faire du commerce, parce que la logique est de faire diminuer ce commerce. Mais tant que ça existe, ça fera des rentrées d'argent pour l'État. Parce que sur 1,20$ ou 1,40$, il y aura entre 10 et 13% de taxes pour l'État, plus la licence que les entreprises devront payer. Dans la mesure où les graines de cannabis uruguayen, le cannabis charrua, a une identité génétique et une traçabilité, nous pouvons suivre la trace de n'importe quelle fuite du marché régulé.
Hacer el seguimiento de cualquier fuga que haya del mercado regulado.
Milton Romani, secrétaire général du Conseil national des drogues, dans un entretien à l'AFP en 2015. C'est lui donc qui s'occupe de la politique de légalisation du cannabis à l'époque. Comment est fixé le prix, Luis Rivera Vélez, du cannabis en Uruguay? Comment éviter ce qui se passe aux États-Unis, dont on parlait dans l'émission d'hier, un prix sur le marché légal bien plus élevé que sur le marché noir et qui finalement n'a pas réussi à tarir le marché noir?
Alors oui, il y a une grosse différence avec le marché états-unien, parce que là, une des prémices du gouvernement, c'est que pour lutter vraiment contre le marché noir, vous devez le concurrencer. Et du coup, vous le concurrencez en proposant une substance à un prix égal à celui du marché noir, mais avec une meilleure substance, une meilleure qualité de la substance. Et du coup, c'est que le gouvernement uruguayen fait très arbitrairement, c'est de fixer un prix qui concurrence celui du marché noir. Et du coup, aujourd'hui, vous avez un prix qui est entre 10 ou 12 euros les 5 grammes, donc qui est relativement bas et qui ne couvre pas les prix des productions. Et c'est d'ailleurs un des problèmes aussi, c'est que les entreprises qui produisent du cannabis, du coup, elles se soumettent énormément à beaucoup de règles et beaucoup de contrôles. Mais en même temps, elles ne gagnent pas beaucoup d'argent. Et c'est là où c'est intéressant, ce discours de Milton Romani. C'est qu'il dit qu'il y a une rentrée d'argent qui est très forte en Uruguay et qui va bénéficier l'État. Mais en même temps, les coûts de la mise en place de ce marché sont aussi assez élevés. Et pour l'instant, oui, il y a énormément d'argent qui est rentré, mais les entreprises ne sont pas nécessairement satisfaites. Et il y a des entreprises qui se sont aussi retirées de ce marché. Mais bon, il y a une volonté du nouveau gouvernement, et ça vient même du gouvernement passé, hein, du gouvernement de droite, de flexibiliser un peu ce marché-là pour que les entreprises puissent accéder à des meilleures conditions et qu'il y ait un marché qui soit plus dynamique en fait dans le pays.
Les entreprises qui ont par ailleurs poussé le gouvernement uruguayen à développer de nouvelles variétés de cannabis, parce que dans un premier temps, le cannabis qui était vendu légalement avait de très faibles taux de THC. Or, certains consommateurs cherchaient du cannabis plus fort, et aujourd'hui, des pharmacies proposent une variété qu'on appelle Epsilon, qui contient entre 15 et 20% de THC, mais souvent elles sont en rupture de stock, ces pharmacies, parce que la production est encore quand même assez faible, contrôlée qu'elle est par l'État. Déborah Halimi, la légalisation n'a donc pas réussi pour l'instant à assécher totalement le trafic, le marché illégal.
Non, alors il faut quand même rappeler, non mais ça veut pas dire non plus que la légalisation est un échec ou qu'elle a failli à ses objectifs. Il faut quand même rappeler que Louis l'a mentionné, le contexte sécuritaire uruguayen est particulier, le contexte aussi des problématiques liées aux drogues uruguayen est particulier. On n'est pas au Mexique, on n'est pas en Colombie, le pays est dans l'ensemble, même s'il y a des problèmes de violence à l'époque, et des problèmes de trafic relativement calmes du point de vue du trafic international des drogues. Ce qui est par contre à relever, c'est l'évolution des routes
transnationale des trafics de drogue, donc de cannabis, mais aussi de cocaïne. Donc indépendamment de la légalisation, le marché évolue. On est face à des groupes qui s'adaptent, qui s'accommodent. Et si le marché gris n'a pas, le marché noir ou le marché gris n'a pas tout de suite tari du fait aussi des accommodations de la consommation, des ajustements aussi de la politique et de sa mise en place, les réalités de la violence liée pour le coup au trafic de cocaïne que connaît aujourd'hui l'Uruguay est vraiment attribuée à des évolutions transnationales propres. Et la violence qui existe, existe principalement à Montevideo, dans le port et aux frontières, où on a des nouvelles entrées, enfin des nouveaux transits finalement de cocaïne qui vont partir vers l'Europe. Et dans ce contexte, donc la légalisation n'est peut-être pas la panacée, mais c'est pas non plus, ça n'a pas non plus donné une catastrophe, enfin comme on pouvait le brandir à l'époque. Donc c'est une expérience précieuse qui montre aussi que le contexte national et le contexte territorial sont importants pour mesurer les effets de cette politique.
Oui, il faut voir à ces deux échelles-là. Loin des routes transnationales de trafic de cannabis et de cocaïne, il y a aussi ces petits clubs de consommation en Uruguay, les Cannabis Social Club, qui sont des groupes d'amis, de voisins qui cultivent ensemble du cannabis dans un lieu précis et qui se répartissent la production. Alors, ils peuvent cultiver jusqu'à 99 plantes pour 45 membres maximum. Le nombre de personnes est limité, de plantes cannabis aussi. L'implantation est réglementée. On peut pas installer un club près d'une école, par exemple, et de toute façon, c'est très cher à monter. Il faut à la fois protéger du vol ces installations. C'est très cher aussi d'équiper en climatisation, que la température soit idéale, etc. Aujourd'hui, les chiffres récents, c'est qu'il y a en Uruguay 213 clubs, 6450 membres, à peu près sur 3 400 000 habitants en Uruguay. Alors, si on reprend, Luis Rivera Vélez, les promesses formulées à l'époque de la légalisation, et cette fois en termes à la fois de sécurité, puisque vous nous disiez qu'à l'époque, l'argument clé, c'était la sécurité, la politique sécuritaire en Uruguay, mais aussi sur la santé publique. Est-ce que cette légalisation a atteint certains objectifs ?
Alors, oui, sur les trois volets, sur la sécurité, sur la santé et sur la question de la reconnaissance des droits. Sur la question de la sécurité, premièrement, en fait, le gouvernement a un chiffre, les consommateurs de cannabis, alors qu'en 2014, c'était 60% à acheter du cannabis paraguayen, en 2024, ils sont 7% à acheter. Donc il y a quand même un assèchement du marché du trafic du cannabis paraguayen qui arrive dans le pays. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de narcotrafic, parce que comme Déborah Halimi l'a bien dit, il y a d'autres substances qui circulent dans le pays. Mais en fait, le cannabis qui venait du narcotrafic c'est complètement diminué et vous avez d'autres modèles de marché gris, de marché illégal qui continuent de circuler, mais qui ne viennent plus du tout, qui ne sont plus contrôlés par les narcotrafiquants. Donc dans ce volet-là, oui, le cannabis ne résout pas les problèmes sécuritaires de l'Uruguay, mais il enlève aux narcotrafiquants l'argent du cannabis. Ça a fonctionné. Sur la question de la santé, en fait, les taux sont très favorables. L'âge de la consommation, de la première consommation de cannabis a augmenté, est passé de 19 ans à 20 ans. La perception aussi du risque du cannabis a augmenté considérablement, de 24% à 33% en 10 ans. Donc, c'est-à-dire que les personnes savent que le cannabis est dangereux aujourd'hui. Et de toute façon, la consommation générale a baissé. C'est-à-dire qu'elle a augmenté entre 2014 et 2018, un petit peu, c'est l'effet un peu de nouveauté. Mais après, elle diminue pour la consommation mensuelle et annuelle. C'est-à-dire que le nombre de personnes qui ont goûté du cannabis dans la vie, il continue d'être élevé parce que ça réduit pas. Et du coup, en termes de santé, les résultats sont aussi très bons. Et finalement, en termes de reconnaissance des droits, en fait, les gens adhèrent complètement au système du cannabis. C'est-à-dire qu'il y a eu des changements. Au début, les gens ne voulaient pas s'enregistrer. De toute façon, il n'y avait pas de cannabis dans les pharmacies, donc ils étaient un peu réticents. Mais en fait, à partir du moment où le cannabis en pharmacie est arrivé, quelles les variétés sont arrivées. Et que du coup, on s'est rendu compte que oui, avoir un club, c'était beaucoup plus cher, ou avoir du cannabis à la maison, bah, demandait beaucoup plus de travail. Les gens commencent à adhérer considérablement au système. Et vous avez un effet qui a été mesuré de quand une pharmacie décide de vendre du cannabis. En fait, l'enregistrement des personnes autour de cette pharmacie-là, dans la zone, augmente considérablement.
Et sans qu'on sache si ce sont des nouveaux consommateurs ou des personnes qui sont contentes qu'une pharmacie ouvre parce qu'ils vont pouvoir troquer leur cannabis illicite contre du cannabis licite, c'est ça ?
Exactement, ça on sait pas très bien, mais dans tous les cas, il y a une adhésion de plus en plus forte au système des pharmacies. En fait, les gens sont contents parce que c'est pas cher et parce que c'est d'une très bonne qualité. Et avec l'arrivée aussi des nouvelles variétés, c'est aussi un cannabis qui est que les gens considèrent satisfaisant en fait pour leur consommation.
Et après le mandat de José Mujica, un président de droite lui a succédé qui n'a pas remis en cause cette politique-là. Il a été question en 2020 d'ouvrir le pays au tourisme. Le tourisme cannabique est hors de question. Le pays était plutôt vent debout contre un tourisme cannabique. De toute façon, il aurait fallu aussi s'entendre là-dessus avec les voisins argentins et brésiliens. Ça ne se fait pas non plus chacun dans son coin, ce genre de questions-là. Mais en tout cas, des garde-fous ont été posés un petit peu partout. Quel pays, peut-être Déborah Halimi, quel bilan est-ce qu'on en fait hors de l'Uruguay cette fois ? Est-ce qu'on estime qu'il y a des choses à prendre dans ce qui a été mis en place ?
Alors peut-être 10 ans après, ce que l'Uruguay a montré, c'est qu'il y avait vraiment un enjeu multiple autour de la légalisation, au-delà de la polémique que cela a pu créer et peut toujours créer dans une certaine mesure. Il y a vraiment eu un enjeu juridique, parce que ça a créé une zone grise juridique au niveau international, mais ça a surtout montré que le contrôle international des drogues pouvait être flexible. Et à cela, c'est lié un enjeu à la fois politique et conceptuel, en montrant que finalement, la légalisation pouvait aussi se lire... alors, c'est pas une position partagée par tous les États, mais en tout cas, on y arrive, comme non pas tant comme une absence de contrôle total, un tout permissif, mais une nouvelle modalité de régulation et une forme audacieuse, certes, mais non moins certaine, finalement, de contrôle et de réappropriation de ces espaces d'usage dits légitimes et autorisés. Donc, du coup, ce qu'elle a aussi... au niveau international, plus personne ne remet vraiment en cause la décision de l'Uruguay, mais est vraiment attentif à ce qui s'y passe. L'Uruguay a aussi adopté une position très pédagogique et ouverte au dialogue en échangeant des données, s'ouvrant à des visites internationales pour voir ce qu'il en était, en ajustant son modèle. Donc ça montrait que finalement, si la légalisation n'est pas une solution miracle, la répression non plus n'est pas une panacée, et la légalisation peut apporter... non pas tant du chaos, mais aussi des modalités de réponse parmi d'autres. Et ça a surtout replacé, finalement, le traitement des drogues dans un écosystème politique beaucoup plus complexe, puisqu'une politique répressive demeure en Uruguay, notamment contre le microtrafic, ce qui a d'ailleurs provoqué une surpopulation carcérale. Mais ça a surtout déplacé aussi le curseur en essayant de comprendre ce qui, finalement, poussait les gens à entrer dans l'économie licite, que ce soit du point de vue des usages ou des trafics, et à s'intéresser aux causes profondes de cette entrée dans une économie illégale et finalement de réfléchir à mettre en cohérence des politiques de drogue qui prennent en compte les différents types de produits, les différents types de contextes sociaux et les différents types de populations. Donc finalement des politiques équilibrées et innovatives, certes dans le cas de l'Uruguay, mais équilibrées et peut-être multisectorielles.
Et entre autres visites internationales dont vous nous parliez, Déborah Halimi, il y a eu celle l'année dernière et vous l'accompagnez d'une délégation de l'Union européenne pour voir comment ça se passe en Uruguay. Ça fait une transition avec notre émission de demain qui s'intéressera aux différentes politiques de dépénalisation en Europe. Et dans un instant, vous restez avec nous, Déborah Halimi, Luis Rivera Vélez. Nous irons voir au Québec comment on s'est ou pas plus ou moins inspiré de ce qui se passe en Uruguay.
Mi causa no es poca en la puerta de tu casa. Queda mi pena y no pasa nada. sé ni dónde van mis pies.
La Red, interprétée par Ana Prada dans son premier album Soy Sola, paru en 2006, rythme du folklore argentin et influence de la musique traditionnelle uruguayenne, influence multiple donc pour l'Uruguay, dont le Québec s'est quelque peu inspiré. Le Québec où le cannabis a été légalisé, comme dans tout le Canada en 2018, mais qui a instauré des règles plus strictes.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Il est donc suggéré d'interdire à une personne âgée de moins de 21 ans de posséder du cannabis, d'en donner ou d'en acheter, tout comme il est proposé d'interdire la vente de cannabis et l'accès aux points de vente de cannabis aux personnes âgées de moins de 21 ans. Il est également proposé d'interdire à toute personne de posséder du cannabis sur les terrains, dans les locaux ou les bâtiments d'un établissement d'enseignement post-secondaire. Il est donc proposé d'interdire de fumer du cannabis sur l'ensemble du domaine public. Nous consacrerons au moins 25 millions annuellement à la sensibilisation aux méfaits du cannabis et au soutien aux jeunes en prise avec une dépendance, et également à la prévention.
Lionel Carman, ministre québécois délégué à la santé et aux services sociaux en décembre 2018, peu de temps donc après l'entrée en vigueur d'une loi sur le cannabis dans tout le Canada pour réglementer la production, la distribution, la vente, la possession de cannabis. Le Québec, lui, a fait le choix d'un modèle plus restrictif et axé sur la santé publique. Bonjour Marie-Geoffrey Roustide.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio de Culture Monde. Vous êtes sociologue et politiste, chargée de recherche à l'INSERM à Paris. Dans quelle mesure le Québec s'est-il inspiré d'abord de l'Uruguay pour faire la transition avec la discussion que nous avions en première partie pour sa politique de légalisation 5 ans plus tard, en 2018?
Le Québec s'est inspiré de l'Uruguay dans la mesure où il a aussi choisi un monopole d'État et avec l'idée d'avoir un objectif avant tout de santé publique et pas un objectif de profit économique comme on l'a entendu hier dans l'émission sur les États-Unis. Donc en fait, voilà, il y a vraiment cette idée d'avoir un modèle de régulation qui soit protecteur pour la santé des plus jeunes et de la population.
Monopole d'État, dites-vous. Alors, il n'y a pas de pharmacie comme en Uruguay, mais la Société québécoise du cannabis détient le monopole d'État de la distribution. Donc, dès le mois d'octobre 2018, par exemple, ouvre à Montréal 3 boutiques de la Société québécoise du cannabis. Elles sont vraiment affichées comme telles. On y achète comment le cannabis? Ce sont des joints pré-roulés, c'est ça? J'ai bien compris?
Alors, En fait, non, vous pouvez acheter du cannabis séché à la SQDC. Et une des principales différences qui existent entre le modèle uruguayen et le modèle québécois, c'est la quantité de produits que vous pouvez détenir. Elle est un petit peu plus importante au Québec. Vous pouvez acheter 30 grammes lors de chaque achat. Vous pouvez avoir également 150 grammes chez vous. Une autre différence, c'est que on a évoqué tout à l'heure qu'en Uruguay, il y a des cannabis social clubs et il y a également la possibilité de l'autoculture. Ça, ce n'est pas autorisé au Québec. Donc, il y a à la fois des éléments qui peuvent paraître... Enfin, les modes de régulation qui sont considérés comme plus stricts ne vont pas se positionner au même endroit. Il n'y a pas de registre non plus au Québec. Alors qu'il y a un registre, il faut s'enregistrer et pas non plus en Uruguay et pas de conditions de nationalité.
Alors, une différence essentielle par ailleurs, c'est que la production et le marché sont néanmoins beaucoup plus libres au Québec qu'en Uruguay, puisque n'importe qui peut lancer sa production de cannabis, alors qu'en Uruguay, c'est quasiment impossible d'être entrepreneur sur ce marché. Les appels d'offres sont très contrôlés par l'État. En revanche, vous nous rappelez bien tout à l'heure, rien à voir avec le modèle libéral états-unien dont on parlait hier.
Rien à voir. Ce qu'on a entendu dans l'émission d'hier, c'est vraiment un modèle américain qui va exposer, en fait, qui a produit d'une certaine manière des effets délétères, avec effectivement une libéralisation, un capitalisme trop important autour de la vente de cannabis. Alors qu'au Québec, il y a vraiment cette volonté d'un modèle protecteur axé sur la santé publique. Et c'est la raison pour laquelle les bénéfices, comme c'était évoqué tout à l'heure, mais je pense que c'est très important de le rappeler, sont réinvestis à la fois dans la prévention, dans le soin, dans la réduction des risques, mais aussi dans la recherche. Et avec également un dispositif d'évaluation de cette politique qui permet ensuite de mettre en place des ajustements.
Et qui chaque année, j'imagine, délivre des informations, à commencer par le nombre de consommateurs qui augmente ou pas. Et j'imagine que tous les détracteurs de la légalisation ont scruté d'abord les chiffres de la consommation. Qu'est-ce qu'on en sait aujourd'hui des effets de cette politique-là ?
Alors, en fait, les indicateurs portent à la fois... Alors, c'est très compliqué d'évaluer une politique de légalisation parce qu'il y a effectivement le nombre de consommateurs qui est un indicateur qui est souvent brandi, la proportion de consommateurs par les opposants, mais c'est pas du tout la même chose suivant les âges. Et donc, en fait, ce qu'on voit dans tous les pays qui ont légalisé, on le voit également au Québec, c'est une augmentation de la consommation chez les plus âgés. Mais au Québec, ce qui est vraiment très intéressant, c'est que cette consommation chez les adultes, on ne l'observe que chez les plus de 25 ans. Et elle est beaucoup moins importante que dans les autres États du Canada ou qu'aux États-Unis, par exemple. Et un indicateur extrêmement intéressant au Québec, c'est qu'en fait, la consommation chez les moins de 25 ans, elle a baissé récemment. Et chez les moins de 18 ans, elle baisse de manière continue depuis la légalisation. Et par ailleurs, comme on en veut goûter, on a aujourd'hui un recul de l'âge à la première consommation de 18 à 20 ans. Et ça, c'est extrêmement important de le souligner parce que les risques liés à la consommation de cannabis, bon, ils concernent l'ensemble de la population, mais ils concernent surtout les plus jeunes et surtout les plus jeunes avant 21 ou 25 ans. Et donc, en fait, le fait de voir un recul à l'âge de la première consommation, c'est extrêmement important en termes de santé publique.
C'est difficile de savoir si ces effets-là sont dus à la légalisation stricto sensu ou aux politiques publiques mises en place pour l'accompagner, aux deux.
Tout à fait. C'est le cas d'ailleurs des augmentations comme des diminutions. Et c'est pour ça que nous, ce qu'on fait en tant que chercheurs, c'est qu'on regarde aussi ce qui se passe dans les autres pays. Mais en tout cas, pour le moment, on ne peut pas dire qu'il y a un lien de causalité entre la légalisation, l'augmentation, la légalisation, la diminution. Quand la diminution perdure, on peut se, enfin, au fil du temps, on peut se dire que, en tout cas, il y a des liens certainement, même si c'est pas un lien de causalité. Et vous avez raison, il y a des mesures en fait qui accompagnent cette légalisation. Donc l'ensemble des politiques, le contexte social, comme le rappelait Déborah Halimi tout à l'heure, sont des éléments très importants. L'argent est réinvesti. Et donc, il est réinvesti dans des campagnes de prévention pour sensibiliser les Québécois et les Canadiens de manière plus générale aux risques liés à la consommation. Le réinvestissement aussi se fait dans les campagnes de prévention sur le développement des compétences psychosociales des jeunes, par exemple, pour essayer de les aider à pouvoir faire des choix éclairés avant de décider de consommer ou de ne pas consommer, ce qui peut expliquer le recul de la consommation chez les jeunes au Québec. Un résultat qui est aussi extrêmement intéressant, c'est l'augmentation de la conscience des risques. C'est-à-dire que souvent au Québec, ce qu'on voit, c'est que suite à la légalisation, les Québécois, et en particulier les jeunes, ont une conscience des risques liés à la consommation de cannabis qui est plus importante qu'auparavant. Et ça peut s'expliquer de plusieurs manières. D'abord parce qu'il y a plus d'argent qui a été investi dans les campagnes de prévention, mais aussi parce que il y a une déstigmatisation de l'usage qui fait que ce n'est plus tabou et donc on peut parler des risques liés à la consommation avec ses parents, avec un médecin. Et donc cette déstigmatisation, elle est très importante parce qu'elle améliore l'accès aux soins. Et moi, je pense que ce qui est vraiment important de retenir à travers le modèle uruguayen, le modèle québécois, c'est que souvent, on a tendance à considérer que légalisation veut dire prosélytisme, mais en fait, suivant le modèle que vous implantez, légalisation peut aussi vouloir dire protection d'une partie des consommateurs, en particulier des plus jeunes, et protection aussi parce que au Québec, les produits qui sont vendus ne peuvent pas contenir plus de 30% de THC. Donc en fait, c'est des produits de meilleure qualité et moins fortement dosés.
Ce qui est d'ailleurs différent, c'est vraiment une des différences qui marque le Québec et qui distingue le Québec du reste du Canada. Donc une limitation du taux de THC à 30%, un usage interdit dans les lieux publics, une offre qui reste limitée. Une centaine de points de vente au Québec contre, par exemple, en Ontario, plus de 1800 boutiques. Pourquoi ce modèle-ci s'est imposé au Québec? Alors, au terme de quel genre de débat?
Ce modèle, en fait, il s'est imposé au Québec pour plusieurs raisons. D'abord, parce que le Québec, par exemple, contrairement, n'a pas souhaité choisir le modèle des États-Unis, parce que c'est un pays qui a un modèle social plus fort que ce qu'on peut voir aux États-Unis. Donc, il y avait l'idée de ne pas faire du cannabis du profit économique. Et puis aussi parce que pendant 2 ans, il y a eu un groupe de travail qui a travaillé, là, au niveau du Canada et également au niveau du Québec, avec des médecins, des chercheurs, des représentants de la société civile, pour avoir un modèle qui soit le plus protecteur possible en termes de santé publique. Donc tout ce temps de préparation a été aussi extrêmement important. Et ce groupe, d'ailleurs, continue à suivre la légalisation.
Avec des limites aussi qui sont mises sur la table sans tabou, comme vous le disiez tout à l'heure, notamment un marché illégal qui persiste avec des taux de THC beaucoup plus importants. Et peut-être sur d'autres indicateurs qui vous intéressent, qui parleraient éventuellement là des écueils qu'on n'arrive pas encore totalement à régler.
Alors, sur le marché illégal, il faut rappeler quand même qu'effectivement, même s'il persiste, 75% des consommateurs aujourd'hui achètent sur le marché légal. Donc, c'est quand même un résultat intéressant. Après, un des éléments qui est mis en avant, c'est le fait qu'il n'y ait pas de possibilité de consommer à l'extérieur, ce qui veut dire que, par exemple, les personnes sans domicile fixe ou qui n'ont pas la possibilité d'avoir un logement individuel vont avoir plus de difficultés à bénéficier de la légalisation. Et puis, il faut voir aussi sur le long terme, il y a un nombre de points de vente qui est moins important que dans d'autres pays, à cause en particulier de ce monopole d'État. Mais c'est aussi, il y a un équilibre à trouver entre sécurité et développement. Et pour le moment, le Québec a réussi à trouver cet équilibre.
Et sécurité routière aussi, puisqu'à l'échelle du Canada, la conduite sous l'influence de drogue au pluriel, hein, pas seulement du cannabis, a augmenté avant et après la légalisation de 2018. Le nombre de blessés dans les accidents de la route impliquant du cannabis n'a pas cessé d'augmenter. Au Québec, en revanche, où là on est dans une politique plus restrictive, l'association des directeurs de police assure que le nombre d'arrestations de conducteurs pour capacité affaiblie par le cannabis n'est, je cite, pas si préoccupant que ça. Donc plusieurs modèles, oui, vraiment.
Alors,
quelques secondes.
Pas si préoccupant que ça, vous avez raison. Et par ailleurs, il y a des études qui montrent qu'il y a une meilleure conscience du risque, voire certains conducteurs qui maintenant ne prennent plus le volant alors qu'ils le faisaient avant la légalisation.
Merci beaucoup Marie-Geoffrey Roustide d'avoir été avec nous dans le Culture Monde. Je remercie également Luis Rivera-Vélez, chercheur postdoctoral au Centre d'études mexicaines et centra-américaines, et Déborah Halimi, experte indépendante auprès des Nations Unies, coordinatrice scientifique du programme INSERM-EHESS, drogue, sciences sociales et sociétés. Merci à vous trois. C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Au 5e jour d'escalade militaire meurtrière entre Israël et l'Iran, Catherine, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou affirme que son pays est en train de changer la face du Moyen-Orient.
Israël-Iran, la guerre entre la peste et le choléra. C'est le titre d'un édito d'Anthony Samrani, co-rédacteur en chef du quotidien libanais L'Orient le Jour, qui s'interroge sur l'avenir du Moyen-Orient vu les forces en présence et les dirigeants actuels en Israël comme en Iran dévorés par l'hubris. Alors que les équipes de secours de Tel Aviv et de Téhéran recherchent des survivants dans les décombres, analyse dans The Economist le journaliste anglo-israélien Anshel Pfeffer, fin connaisseur du Moyen-Orient. Il rappelle que cela fait des décennies qu'Israël et l'Iran préparent cette guerre aérienne et balistique. Elle est arrivée spectaculaire et terrifiante, écrit The Economist. Le bruit des explosions engloutit Téhéran, confirme le quotidien iranien Etemad, et de longues files de voitures se forment pour quitter la capitale iranienne, décrivent la BBC et Iran International. Au sein de l'opposition iranienne, au sein du mouvement Femmes, Vie, Liberté, une fois passé le soulagement de voir des têtes de l'hydre militaro-religieuse tombée, crainte de mourir à son tour sous les bombes israéliennes, raconte The Atlantic et le magazine Newsweek, dans une guerre qui pourrait bien renforcer les membres les plus radicaux du régime iranien. À Téhéran, ce régime n'a rien d'autre à offrir à sa population et à celle de la région qu'un cocktail de propagande et de répression, analyse l'éditorialiste de L'Orient le Jour. Faut-il se satisfaire du fait que l'attaque lancée par Israël puisse aboutir à la chute du régime iranien, demande Anthony Samrani, dans une série de questions rhétoriques, faut-il fermer les yeux sur le fait qu'elle viole en tout point le droit international et qu'elle soit menée par un acteur qui, dans le même temps, tente de mettre en œuvre à minima un nettoyage ethnique à Gaza, poursuit son entreprise de colonisation en Cisjordanie et intervient militairement en toute impunité en Syrie et au Liban, poursuit le co-rédacteur en chef du quotidien libanais L'Orient le Jour. L'hostilité légitime envers le régime iranien doit-elle conduire à ignorer les leçons de l'histoire et notamment celles de l'intervention américaine en Irak qui ont maintes fois prouvé que l'usage disproportionné et illégitime de la force n'aboutissait qu'à renforcer le chaos que ses promoteurs prétendent combattre.
Ce serait une erreur de calcul ?
Une faute morale et politique, estime l'éditorialiste de L'Orient le Jour. D'abord, parce que l'on ne peut pas faire abstraction du droit international quand cela nous arrange, et le défendre à corps et à cri le reste du temps risque aussi de plonger dans l'abîme, d'aboutir à un chaos généralisé si le régime des Mollahs finit par tomber. Qui va organiser la transition de pouvoir dans un pays ruiné de 90 millions d'habitants qui fait 75 fois la taille d'Israël et 3 fois celle de l'Irak, demande encore Anthony Samrani dans les colonnes de L'Orient le Jour. La frontière entre le courage et le délire est très ténue et Benjamin Netanyahou s'en approche désormais, affirme Alouf Ben, le rédacteur en chef du journal israélien de gauche Haaretz, qui conseille à son premier ministre de ne pas se fixer d'objectifs impossibles tels que le renversement du régime iranien. Sinon, la guerre des villes entre Tel Aviv et Téhéran sera interminable. De plus en plus d'Israéliens se demanderont s'il vaut la peine de vivre dans un pays qui ploie sous les missiles envoyés par l'Iran et dont le gouvernement le pousse dans les bras d'une version juive messianique du chiisme messianique iranien, ajoute Haaretz. Quant à savoir quand cette guerre prendra fin, c'est probablement la Maison-Blanche qui le décidera, s'accorde à dire Haaretz et The Economist. Donald Trump a d'ailleurs quitté plus tôt que prévu le sommet du G7 hier au Canada, relève le Washington Post et le quotidien canadien The Globe and Mail. Le président des États-Unis a le choix de rester en retrait, indique The Economist et la BBC, ou d'offrir à Israël des bombes anti-bunker tant attendues pour détruire des sites nucléaires iraniens enfouis dans la montagne, à commencer par celui de Fordo, dont je vous parlais hier.
Et vous teniez à conclure cette revue de presse internationale, Catherine, sur les collines d'Hollywood.
Le son venu de Laurel Canyon a résonné au fil des décennies avec une profonde influence sur la musique folk ou rock, raconte The Economist. Car c'est à Laurel Canyon que de jeunes musiciens fauchés se sont retrouvés et ont parfois collaboré ensemble, attirés par un retour à la terre, des logements bon marché, la présence de drogue aussi et de clubs de musique comme le Troubadour juste en bas de cette colline. Des artistes tels que The Mamas and the Papas, Crosby, Stills, Nash & Young se sont retrouvés à Laurel Canyon ainsi que Joni Mitchell. Ladies of the Canyon sur l'album éponyme de Joni Mitchell, l'un des titres emblématiques de cette colline d'Hollywood dont The Economist raconte l'histoire.
Merci beaucoup Catherine Dutu.